La nuit est une fête.
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 La nuit est une fête. Sur Radio Campus Paris.
Cette émission est présentée par Jordi
et Victor.
Et c'est parti la musique.
Bonsoir à tous.
Salut. Ça va?
On aurait dit que j'avais préparé le micro pour toi.
Merci à vous. Merci d'être venus si nombreux.
Au programme de l'émission, du rire, de la musique.
Des musiciens, des vraies voix, des chanteurs.
Comment vous dire le bonheur que j'ai de vous retrouver pour cette nouvelle émission?
Bonsoir à tous et à toutes. Vous l'avez reconnu à ce générique, je dirais saugrenu. Vous êtes en direct de la nuit, une fête pour cette 8e édition. Après le petit bain, le Zorba ou encore le café de la presse, cette fois, nous avons le privilège et la joie d'avoir installé nos studios au pop-up du label. Nous, puisque bien entendu, je ne suis pas seule pour assurer le bon déroulement de cette future extraordinaire émission. Il est ma Brigitte Macron à moi, mon emploi non fictif. Écoutez, je pense qu'ici, tout le monde l'a déjà reconnu. Je vais bien sûr parler d'Erwan. Bonsoir.
Comment ça, future extraordinaire émission aujourd'hui? Actuelle extraordinaire émission
c'est magnifique. Vrai,
bonsoir
Jordi,
bonsoir à tous.
Son prénom vient du latin Maximus, qui signifie le plus grand. Et croyez-moi, c'est mérité. C'est l'homme couteau suisse de cette radio, mon cher ami Maxime. Bonsoir.
Bonsoir.
À la réalisation, lui non plus, nous n'avons presque plus besoin de le présenter. Il n'est pas le plus grand, au contraire, il est le plus petit. Pour autant, quel talent, il monte et remonte les boutons de sa console pour le plaisir de vos oreilles. Applaudissons très fort Rémi, bonsoir.
Bravo Rémi, bravo Rémi.
Trêve d'éloge pour l'équipe, puisque ce soir, c'est tout de même lui, la star de cette émission. Son premier est une production textile issue du mouton. Son second est un terme qui désigne une portion de quelque chose. Son troisième est une émission bruyante de gaz. Enfin, son tout désigne un artiste rêveur dont les mélodies lancinantes et mélancoliques n'ont pas fini de vous envoûter. Bonsoir Len Paro.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Merci à toi en tout cas de te joindre à nous ce soir. Mais j'imagine que c'est pas ta première émission de radio.
Non, ça va. Je crois que
t'es un peu habitué, ça va.
Il y en a eu d'autres préalablement.
Tu te sens bien, c'est bon. Parce que là, t'es avec nous pour une bonne heure.
Ah non, c'est
surtout qu'on est dans le meilleur endroit, emplacement qu'on a depuis le début
c'est
de cette émission. On a des canapés en cuir et tout. On est quand même vraiment bien installés.
Ouais, on n'est pas à plein. Hein.
Et bien chez nous, comme à chaque fois, on aime bien commencer par une petite prise d'ambiance dans la salle. Et cette fois, c'est Erwan qui se dédouble pour nous faire rencontrer quelqu'un au hasard de cette soirée.
Et oui, Jordi, je t'entends tout à fait. Je suis juste en bas dans la salle, juste à la fin du concert de Len Paro. Et je suis avec, comment tu t'appelles?
Lucas.
Lucas. Eh bien, Lucas, t'as assisté à un bout du concert, en tout cas. Comment t'es venu? Qu'est-ce qui t'a amené ici ce soir?
Alors, j'ai découvert l'événement via les réseaux sociaux, via Facebook et plus particulièrement via Retard Magazine.
Via Retard Magazine, oui, parce qu'on a une soirée organisée par Retard Magazine où il y a aussi une expo qui est organisée avec ça. T'as pu voir aussi un petit peu l'expo peut-être? T'as tourné un petit peu dans le coin?
Oui, mais je t'avoue que je venais surtout pour le concert, donc je me suis pas hyper attardé sur l'expo, mais ce que j'ai vu m'avait l'air très très cool et ouais, très très bien.
Et justement, t'as vu Len Paro en live, t'as pensé quoi de cette petite ambiance tamisée, piano, voix? Ça t'a plu?
Ouais, ça m'a beaucoup plu, c'est exactement ce que je venais voir. J'ai vu vraiment beaucoup de talent, beaucoup d'émotions. Et on voit que l'artiste joue avec le cœur et c'est exactement ce que je venais découvrir ce soir. Donc ouais, franchement, super soirée. Merci beaucoup et c'était vraiment top.
Merci beaucoup Erwan. Ce que je te propose maintenant, Len Paro, et avant de commencer les
Len
choses
Parot.
Sérieuses. Ah oui, Len Paro, c'est vrai que ça c'est important. Len Paro, voilà.
Là comme ça, tout se passera bien pour le reste de l'émission.
Ça commence mal déjà. C'est de faire découvrir à nos auditeurs l'un de tes morceaux en live ce soir au pop-up du label.
La fête. All my life I've been failing to see how it goes. I was one among the lonely drunk without a cause. All I ever wanted was to have someone. All I ever wanted was to have someone. Yeah. Oh, I once thought I should be sorry. Was it on purpose? Wearing lipstick at your party, as red as a rose. All I ever wanted was to have someone. All I ever wanted was to have someone to take me away, to take me away. Yeah, well. To have someone. All I ever wanted was to have someone to take me away, to take me away. Will I ever find the tube I have to play? 'Cause all my life I've been feeling, all my life I've been feeling, all my life I've been feeling, all my life I've been feeling. All I ever wanted was to have someone. All I ever wanted was to have someone. Yeah, well.
Yeah. De retour dans La Nuit est une fête en compagnie de Len Parrot. Cette fois, je l'ai bien dit. Dont on vient d'écouter un premier morceau en live. Et bonne nouvelle, il est toujours avec nous. Tu confirmes?
Ah ouais, oui, je suis là.
Tu es toujours là. Alors, je sais pas comment ça se passe habituellement dans les autres émissions de radio. T'as pu faire, hein, mais chez nous on a une petite tradition, c'est qu'on s'amuse à présenter nos artistes sur le concept d'une bio décalée. Je te propose donc d'écouter la tienne et accessoirement de rigoler. Len Parrot, tu es un jeune homme de 27-28 ans, à vrai dire ça commence mal hein, puisqu'on n'a pas réussi à trouver ton âge précis. Tu fais 1m90 comme Rocco Siffredi, et ça c'est une vraie info. Tu nous viens de Nantes. Sans surprise, ton nom de scène n'est pas ton vrai prénom puisque tu t'appelles Romain Lallemand.
Bonjour, monsieur le standardiste. Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai l'accent allemand. J'ai Bourringasding de nazi arabe.
Tu es claviériste et auteur depuis tes 17 ans, ce qui te vaut de rejoindre en tant que chanteur le groupe Rome for Pauline. Puis celui de Pégase. Comme claviériste, hein, justement, pendant près de 4 ans. Il y a quelques années, tu mets fin à cette aventure pour te lancer dans une carrière solo. Loin de toucher le fond, tu sors plusieurs EP, dont le dernier appelé Naufrage. Avec un titre que j'aime beaucoup justement et dont j'ai forcément envie de vous faire entendre un morceau, The Hidden Track. Don't play around. Ce soir, nous te recevons pour la sortie du titre Monde des Landes, le tout premier de ton premier album Ends in E, et tu es extrêmement heureux d'être ici avec nous. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec cette bio ?
Je suis bien d'accord avec cette bio qui a eu le mérite de me faire pouffer, m'esclaffer.
De rire ? Ah,
de
c'est
rire.
Bien, tu es déjà un bon invité, je trouve.
La gorge déployée.
J'ai pas dit trop de bêtises pour le moment, ça va.
Bah non, malgré cette jingle du...
Tu cherches les mots.
Oui, mais c'est bon, ça.
Ce que je te propose du coup, c'est de revenir un petit peu sur toutes les infos que j'ai pu donner. Notamment le fait que tu fasses 1m90. Non, je déconne, ça c'est pas une... On s'en fout. Ce qui m'intéresse du coup de savoir pour commencer, c'est un petit peu comment a commencé ton aventure musicale.
Eh bien, j'ai commencé à apprendre le piano et les percussions vers l'âge de 5 ans.
Ah oui, très jeune.
Ouais. Forcé durement par ma mère et mon grand-père.
Ah mince, tu dis ça comme si c'était quelque chose de assez négatif.
Non, du tout, mais je pense que ça remonte trop loin pour savoir si réellement ça me procurait du bonheur
à ce moment-là,
à cet âge-là. Et je crois que si, parce que si vraiment ça avait été un truc vraiment pas facile, pas agréable, tu sais, t'as des sortes de trucs un peu comme on te rappelle un mauvais souvenir, c'est très très flou, mais tu sais que c'est pas cool. Comme une soirée trop arrosée, je sais pas.
Ça, des fois, c'est très très cool.
L'enfance, l'enfance, par contre, c'est un peu comme une salle cuite, t'as, c'est ça. C'est flou, tu sais plus trop. Non, mais en fait, trêve de plaisanterie, c'est quand même grâce à eux que d'une certaine manière, j'en suis là, puisque outre la volonté, il y a quand même eu leur envie de me transmettre un truc. Je viens vraiment d'une famille de musiciens.
Donc tes parents étaient déjà musiciens ?
Ouais, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Ma mère a été danseuse, elle a chanté, elle chante encore dans différents ensembles vocaux. Mon grand-père est compositeur, mon papa est violon alto à l'Orchestre national de Paris. Donc finalement, il y avait quand même un terreau qui...
assez fertile.
Tu pouvais pas y échapper même.
J'y ai échappé en dessinant un peu ma propre...
ma
propre histoire par la pop, puisque eux ne sont pas du tout dans ces registres-là, mais c'est ça qui est encore plus chouette de pouvoir y revenir et pouvoir leur dire voilà, vous m'avez transmis un truc de la musique et moi après j'en ai fait ce que j'en ai voulu. Parce que si ça avait été de la pâle copie ou je sais pas, je suis pas trop dans ce truc entreprise genre père et fils quoi.
Tu crées ton propre chemin quoi.
C'est si beau, c'est si.
Est-ce qu'aujourd'hui ils sont contents de ce que tu fais?
Mais ils n'étaient pas là aujourd'hui. Mais
aujourd'hui, on meurt.
Mais ils écouteront.
On les a pas croisés.
Mais oui, complètement. Oui, que ce soit, les trois dont je vous ai parlé sont tous très 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 touchés, très émus que de voir leur rejeton persévérer dans son affaire et puis ça devient un peu aussi une affaire de famille puisque j'ai par exemple pour l'album. Pour Envenry, j'ai eu ce bonheur d'arranger certains titres avec mon grand-père pour que ce soit mon père qui les joue. Donc ça fait vraiment.
Il y a vraiment un truc de famille.
Ouais, comme disait Sly and the Family Stone, it's a family affair. Voilà.
C'est beau. Très beau. Mais du coup, à quel âge t'as su genre vraiment que ça pourrait devenir ton métier?
Je crois en fait aux alentours de 5 ans.
Ah oui, donc en fait au final, c'était à peu près.
Je crois que c'était une conviction intime. Je pense que aux alentours de mes 5-6 ans, j'ai skippé d'Henri Dess à Freddie Mercury.
C'est un step très important, ça. Quand
à 6 ans déjà, moi les gars, j'en étais pas là.
On aurait pu se gourer le moustache, mais finalement, l'un est mort et l'autre l'a enlevé. Donc bon. vraiment, j'ai l'impression d'avoir écouté des chansons pour enfants, comme chaque bon enfant qui se respecte.
Ah non, moi à 6 ans j'écoutais pas ça, je vous assure.
T'as jamais écouté Henri Dess?
Ah non.
Oh là là.
C'était quoi?
C'est pour ça que j'en suis là, vous voyez. Voilà,
la nuit, tous les chats sont gris, enfin aujourd'hui.
Non, mais en tout cas, vraiment, j'ai le souvenir que entre mes 5 et 6 ans, découvrir Queen, ça a changé ma vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Quoi. J'avais un petit lecteur cassette Play School, et avec que des cassettes ou des trucs que toute ma famille s'amusait à me filer. Parce que je passais mon temps sur ce petit lecteur où j'avais un petit micro portatif, donc aussi je faisais mes propres cassettes.
Génial.
Ouais, ouais. Si je les retrouve aujourd'hui, je pense que je les brûle parce que ça pourrait
vas-y,
vraiment.
Garde-les, ça va être collector prochainement.
Non, mais par contre, vraiment, vraiment, j'ai le souvenir de ma maman qui en fouillant dans ses cassettes, me donne le Greatest Hits de Queen. Et j'ai usé jusqu'à la fin de la bande, quoi. J'ai écouté ça tout le temps et c'était une révélation. Ce mec-là, bras avec un cuir et une grosse moustache, je me dis, putain.
T'as jamais voulu devenir dentiste ou vétérinaire, t'as toujours su, genre. Non. Je serais musicien.
Eh ouais, je crois vraiment.
T'as jamais voulu adopter le cuir et la moustache non plus.
Alors, le cuir, non. La moustache, on passera sur cette question.
T'as eu une petite période moustache un petit peu ambiguë.
Donc brûler le disque dur aussi.
On va la mettre en photo pour le podcast.
Heureusement qu'on est à la radio, chers auditeurs, vous pouvez pas voir ce qu'on voit.
Et donc du coup, t'as commencé tes premiers pas en fait avec Run for Pauline, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Donc voilà, Run for Pauline et ensuite Pégase, qui ont été vraiment tes premiers projets.
Ouais. On a fondé Run for Pauline en 2007. Et c'était vraiment un groupe un peu sorti de lycée, on a commencé à deux. Et puis voilà, ça a pris son essor. On a rencontré les Minitel Rose qui avaient leur propre label Futur, qui avaient envie de sortir d'autres choses que de la pop électro. Et voilà, et Raph, donc le chanteur de Minitel Rose, a enregistré notre premier EP, le second. Et puis voilà, c'est d'un groupe de lycée, on en vient à un groupe qui a plusieurs années, qui a plusieurs projets, qui se met au service de Raphaël quand il a monté Pégase à l'issue de Minitel Rose. Et voilà, et puis on vient à être un groupe qui a presque 10 ans et avec un album. Et puis voilà, on s'est séparés l'année dernière, mais ça a été une aventure incroyable.
Avec les deux groupes, du coup, tu t'es séparé ou tu continues quand même
Alors, séparé, on s'est séparé avec Quentin Pauline, en effet, l'année dernière. Et puis Raphaël, pour la tournée de son deuxième album avec Pégase, a changé de line-up. Donc on figurait plus, on a cessé de l'accompagner parce qu'il avait d'autres envies, d'autres prérogatives pour cette tournée.
Et du coup, qu'est-ce qui t'ont apporté ces groupes justement avant que tu te lances maintenant en solo? Est-ce que pour toi c'était genre pas primordial, mais donc t'étais obligé de passer par là avant de te lancer tout seul ou
J'y ai pas réfléchi, je pense que c'était pas un truc où je me suis dit genre j'ai besoin de passer par eux pour faire ce que je veux faire tout seul.
Ça s'est fait comme ça.
Mais en tout cas, il est certain que peut-être plus par Rome Trampoline que par Pégase, mais c'était en réaction. C'est-à-dire que parce que Pégase, on était au service de Raphaël, on était ses musiciens sur scène, et finalement, notre part de création sur son concert était vraiment minime par rapport à ce que lui a pu apporter. C'est vraiment des musiciens au service d'un projet solo. Contrairement à Rome Trampoline, qui était notre groupe, où même si les parts et les responsabilités et les tâches de chacun ont fluctué de par les années, parce que voilà, on était sur le point d'avoir 10 ans en janvier 2017, donc voilà, c'est comme une histoire d'amour, il se passe plein de moments, plein de choses, plein de renouvellements, et je pense qu'en effet c'était en réaction à Rome Trampoline et à des moments où j'ai eu des doutes, je n'ai plus su comment...
Pour tes prochaines émissions, il va falloir être un peu plus...
vous me cueillez au sortir d'un concert en même temps, ça m'est jamais
arrivé.
Attends,
il faut être prêt pour toutes les situations.
C'est vrai,
c'est ça,
vrai.
La vie
d'artiste. Prochaine fois, on fera ça en kayak.
Bonne idée, ok, je prends.
C'est la nuit est en kayak.
La nuit est en kayak.
Franchement, j'adore.
La nuit est un canoë. Donc non, ouais, c'est sûr que c'est parce que j'ai eu des mois, des années, même presque 2 ans d'hésitation et près...
Ah oui, 2 ans quand même, ça a été assez long à commencer en fait tout seul.
À être mécontent de ce que j'écrivais, de ce que je composais et à être tellement mécontent, à tellement taper à côté de ce qu'on avait envie de faire au sein de Rome Trampoline que je me suis arrêté pendant quasiment un an. Et rétrospectivement, c'était certainement nécessaire, mais sur le coup, c'était vraiment violent. Et donc, Lane Parrot, ça a été une sorte de réaction un peu urticaire d'aller chercher, de cesser de vouloir plaire, que ce soit à Rome Trampoline ou à qui que ce soit, mais d'aller...
Tu l'as fait pour toi,
écrire
avant
une
toi,
chanson
fait.
Qui puisse trouver grâce à mes yeux. Et c'est en débloquant ce truc-là, après quasiment 2 ans, que sont venues toutes ces chansons où j'ai réussi un peu à me remettre sur pied, à me reconstruire, à recoudre là où ça faisait mal. Et donc c'est sûr qu'il reste encore quelque chose de super sensible, parce que c'est vraiment en allant chercher dans mes émotions, dans ce qui m'habite, que Lane Parrot est née.
Il y a peut-être aussi ce côté où tu avais exploré plein d'autres registres qui sont assez différents de ce que tu fais aujourd'hui en solo, que tu avais peut-être aussi fait le tour d'une certaine façon d'écrire et de composer.
Oui, il y a certainement une esthétique nouvelle qui m'a séduit, parce que les premières chansons de Lane Parrot ont été conçues en pouvant arranger en fait par ordinateur, alors que durant nos années avec Rome Trampoline, durant les premières années, je cherchais des patterns sur mon piano, des bouts de mélodie, et en fait j'apportais souvent des squelettes qu'on étoffait ensemble et vraiment dans le cadre des répétitions, alors que là je pouvais débuter une chanson sur mon piano et puis ensuite aller l'arranger sur mon ordinateur et avoir quelque chose de fini. Et t'as un truc un peu démiurge où en fait tu peux tout penser, tout prévoir. Et ça a été le début d'une liberté folle et dont je jouis encore maintenant quand je travaille, que ce soit de travailler au piano, comme vraiment aller chercher des sonorités, des sons, des rythmiques. C'est un exercice assez grisant, c'est sûr.
Dans cette émission, on a également une autre tradition. On aime bien connaître les premières fois de nos invités. Et pour ça, je vais te laisser entre la voix experte d'Erwan qui a quelques questions à te poser.
Et oui Jordi, parce que les premières fois, ce n'est jamais glorieux et c'est pour ça qu'on les adore. L'aime parotte, on s'intéresse beaucoup à là où tout a commencé, c'est normal. Et moi, j'aimerais parler à l'enfant qui est en toi, au jeune homme qui, avec son argent de poche, va aller acheter son premier CD. Est-ce qu'il se rappelle de quel CD il s'agissait ? Si la réponse est trop honteuse, je peux te dire le mien.
Non, je crois que je sais. En tout cas, je ne me souviens pas avant, mais j'ai le souvenir, étant enfant, avec ma maman, dans notre appartement à Bastille, voir les pubs défiler avant les trucs genre Hélène et les garçons, parce que, autre honte, mais j'ai le souvenir que quand j'entrais de l'école, genre, vers le CP, je regardais des trucs type, ouais, vraiment les productions AB, Hélène et les garçons, trucs comme ça. Et
ça va beaucoup plaire à Maxime, qui est un très grand fan d'Hélène et les garçons.
Et bah, écoute, j'étais amoureux d'Annette, pour tout te dire. J'ai le souvenir que vers mes 5-6 ans, j'étais amoureux d'Annette et j'ai le souvenir que la publicité qui passait...
Mais vous avez quel âge ?
Après...
Alors, je vous permets de rectifier. Annette, c'est pas Hélène et les garçons, c'est Premier Baiser.
Ok.
On a un expert relou autour de la table.
Autant pour moi.
Et donc, il y avait une pub qui passait.
Qui devait être genre un truc type Boulevard des Hits, un truc comme ça. Et à chaque fois, la pub, c'était genre... Hit it, na, 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 na. Et j'étais fou de ce titre-là. Et donc j'ai suriné ma mère pour aller à la Fnac Bastille, parce que avant que ce soit une sorte de spa dégueu, je pense comme c'est maintenant genre à côté de l'opéra, c'était une Fnac. Et donc je suis allé acheter Boulevard des Hits avec des trucs type
déjà le titre totalement
inconnu maintenant. Bon, si subsiste Frédéric Goldman Jones, il y avait un titre, je pense à eux, Clémence L'Homme. J'ai souvenir de celui-là.
Clémence L'Homme.
Personne ne se souvient de Clémence L'Homme maintenant.
Les compiles de hits d'il y a 10-15 ans, c'est des cimetières absolument terrifiants.
Mais par contre, Inikamos, tout le monde s'en souvient maintenant. Genre Here Comes the Hot Stepper, qui est une sorte de pâle plagiat de Land of a Thousand Dance de Wilson Pickett. Voilà. Et juste, du coup, c'est une sorte de reprise ragamuffin de. Here comes up stepper boy. Et ça, j'étais fan de site. Et c'était, je pense, mon premier CD acheté.
Tu l'as toujours ? Tu penses que tu l'as toujours dans un coin ?
Il doit être dans le grenier de ma maman.
Qu'est-ce qu'elle chantait, Clémence L'Homme ?
Je sais pas du tout.
Partir sans toi. Partir, non, ça c'est.
Et c'est la fin de cet instant nostalgie, Jordi. Le premier instrument que tu as pris en main, du coup, j'imagine que c'est le piano.
Ouais.
Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est la première chanson qui t'a entêté au point que tu la chantes sous la douche, les yeux fermés, en te croyant dans un stade.
J'ai déjà l'image.
Wow.
T'es peut-être sur cette fameuse compile.
Non, je pense que c'était... voilà, je vous parlais de Freddie Mercury tout à l'heure. Je pense que ça doit être Radio Gaga ou Another One Bites the Dust de Queen. Ouais.
Très bon morceau en plus. T'avais quand même des goûts assez...
Ouais, les deux
stylés.
Sont pas mal. Ah ouais.
Est-ce que tu te rappelles, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'enfant c'est une espèce de très longue gueule de bois, mais avant la gueule de bois, il y a la cuite. Est-ce que tu te rappelles de ta première cuite ?
Oui.
Est-ce que tu peux nous la raconter ?
Ouais, je pense que c'était passé...
Collège ou lycée ?
Lycée, hein,
ça va.
Ouais,
ça
je
va.
Crois que c'est vraiment arrivé... je pense même, genre, c'est la fin de la première, c'est même pas la seconde. C'est la fin de ma première, c'est au sortir du bac français, puisque j'ai fait filière littéraire. J'ai eu une première histoire d'amour qui a débuté très jeune et qui a duré longtemps. Et donc, dès que j'avais des week-ends ou des vacances de libre, j'allais retrouver mon amoureuse qui n'était plus dans la même ville que moi. Et ça a duré jusqu'à mes 17 ans, quelque chose comme ça. Et donc, ma première vraie grosse cuite, c'était aux alentours de mes fins d'examen. En première. Et donc, ouais, je l'ai
fêté la fin du bac un petit peu.
Bah, du bac français.
Bac
ouais.
Français.
Et c'était scandaleux parce que du coup, je sais pas si c'est tôt ou tard auprès des.
Ou c'est honnête, première, ça va.
Première, c'est assez honnête. Ouais.
On a eu plus jeune, mais après plus jeune, c'est un petit peu dans l'excès aussi.
C'était 17 ans. Mais du coup, c'était navrant. Genre,
on peut demander à notre caution jeune de la radio qui va nous dire genre, que lui, ça va être 12 ans.
Pas boire, quoi.
Non, bah,
première,
tu sais pas boire.
La première, je crois que c'était à 15 ans. C'est bon. Ah, bah, c'était avec vous.
Ah non, ne dis pas ça. On coupe.
Et oui, tu ne sais pas boire quand tu as cet âge-là. Tu n'as pas
non,
la
par
notion.
Contre, ce qui est certain, c'est que cela fait, je pense, aisément 11 ans que je n'ai pas rebu de vodka orange.
C'est pas possible.
C'est un truc traumatisant.
On a tous un alcool qu'on n'ose plus boire parce qu'il est trop, il est trop ressorti à force d'entrer, tu vois.
D'accord.
Ça, c'est toujours le problème.
C'est ça, là.
Et on va revenir à la scène, parce que tu as commencé la musique très jeune. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois sur scène?
Oui. Alors, en tout cas, première fois en faisant un peu cette pop, il y a 15 ans quoi, mais ouais, c'était dans le théâtre de mon lycée, j'étais en seconde, à l'époque, malheureusement, j'écoutais plutôt les trucs type Benalla, Vincent Delerme, et je peux vous dire que ces deux salopards-là ont fait... Bah, Vincent Delerme, je trouve que c'est cool, et pour l'avoir revu cette année... sur scène, je trouve que c'est carrément cool,
live, c'est
que
terrible.
Ça a incroyablement bien vieilli.
Benabar,
et on salue Benabar, si nous écoute.
On sait pas où il est, mais on le salue.
Mais ouais, enfin, Delerme a cessé, a mué en fait, a arrêté d'avoir cette voix presque caricaturale, un peu tombante, et reste des textes fantastiques et un mec d'une générosité absolument sidérante sur scène.
Et donc du coup, chantais ça?
Ouais, mais tu sais, quand t'as 14 ans, du coup... T'es...
Ah, mais je ne dis rien, j'ai chanté des choses à 14 ans que je n'oserais fredonner aujourd'hui.
Moi, non. Voilà.
Merci, Erwan.
Mais de rien, Jordi.
Et c'est incroyable.
Je peux rester jusqu'à la fin?
Non, parce que là, tu vas devoir te dédoubler.
Oh, je me dédouble.
À l'instant même pour te rendre à nouveau dans le public du pop-up du label pour recueillir des impressions sur la soirée.
Et maintenant, dans la salle. Et oui, Jordi, je suis bien dans la salle de concert. On est juste à la fin du concert de L'Emparo. La foule est en délire. On est avec des gros fans. Et on est juste à la fin. Les gens sont en train de nous dire qu'on a fermé. Et je suis avec Clément. Salut Clément. Et ben, qu'est-ce que tu as pensé de ce concert de L'Emparo?
Voilà, je passais une super soirée. Il était vraiment...
Il
était beau. Non, on a fait un slow et tout. Non, mais vraiment... Hein. On était, je sais pas, c'était émouvant, il y a quelque chose quoi. Puis le public, vraiment sur toute la salle, était vraiment.
En émoi,
sincèrement, ouais, profondément touché quoi.
T'as senti de l'amour ce soir autour de toi.
Non, mais c'était de l'amour, c'était en dehors du
à
monde.
Quoi.
En dehors du monde. Ouais, lui il est un peu con. Mais...
Comment il s'appelle ton pote un peu con?
Jocelyn.
Salut Jocelyn. Pareil, beaucoup de love.
Ah, énormément de love. Et puis peace and love, les gars.
Non, la musique était bien, non, franchement, piano-voix, ça fonctionnait bien. Ouais.
Merci beaucoup.
Michel, hein, Michel.
Plusieurs rappels hein, quand même. Hein. Il a assuré le mec, hein, plusieurs rappels. Hein.
Merci beaucoup les gars, passez une bonne soirée.
Vous êtes toujours en compagnie de La Nuit est une fête sur le 93.9 de Radio Campus Paris et avec Len Parrot, notre artiste de ce soir. Est-ce que tu te sens toujours bien avec nous?
Je me sens toujours bien en votre compagnie.
Du coup, ça tombe bien parce qu'on a encore quelques questions à te poser. Et du coup, moi, je voudrais que tu commences un peu par nous expliquer. Alors, moi, je l'ai lu, mais les auditeurs ne le savent pas. Ton nom de scène, pourquoi Len Parrot?
Attends, est-ce que je peux avancer ma théorie?
Alors, vas-y. Ah oui, je ne valide pas. Moi, je me dessous de solidarise de ce qui va
mais
dire
non, mais
maintenant.
Mais parce que Parrot, ça veut dire perroquet en anglais. Et moi, je me demandais s'il y avait un lien de parenté.
Avec un perroquet?
Avec
lien
un perroquet.
Il va peut-être trop loin, tu peux lui dire. Tu vas beaucoup trop loin.
Le silence sera ma seule réponse.
Ah, plus sérieusement, ton nom de scène, de quoi il est inspiré
Mon nom de scène est...
Je sais.
C'est une référence. Parce que je suis assez attaché au postulat avançant que tout a déjà été fait. Et surtout dans la musique pop, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose à créer.
Donc c'est... Ah, t'es assez pessimiste, toi, du
non,
coup,
non,
plutôt,
non, non, c'est pas pessimiste, c'est un truc juste de... Il n'y a pas 36 notes sur un piano, et
ah
il
oui,
y a plein
sûr,
d'accords
oui.
qui ont tous été utilisés, et tous de manière différente, et en fait, la musique enregistrée ne constitue peut-être que 1, 2, 5, 10% de ce que la musique créée, pensée, a été faite. Donc finalement, on a le luxe pour certains d'être... certains et certaines en haut de la pile, donc en haut de la pile, je parle juste simplement, c'est vraiment pas prétentieux, c'est juste la musique enregistrée et qui sort et qui est écoutée.
Arriver à sortir, être écoutée en vie.
Voilà, et donc au même titre que Radiohead avait piqué leur nom à une chanson des Talking
Heads, oui.
Ben, voilà, je trouvais ça assez joli de rendre hommage à un disque plus qu'à un artiste, enfin les deux. mais de rendre hommage à un disque qui a été fondamental pour moi.
Qui est quel disque?
Donc qui est le premier album de Baxter Dury, qui s'appelle L'Empirate Memorial Lift, et qui est pour moi une sorte de diamant sombre absolument fantastique, très loin de ce qu'il a pu faire par la suite, de pop songs absolument idéal, hyper ciselé, le truc hyper crooner d'Andy. En fait, Baxter Dury est une sorte de Gainsbourg à l'anglaise maintenant, tu vois.
Mais c'est ça, et donc du coup, parce que voilà, j'ai vu aussi qu'il y avait Gainsbourg qui t'a inspiré surtout sur le titre de ton premier EP. Mmh. Voilà, et donc du coup, c'est vraiment tes deux artistes un petit peu référence, un petit peu.
Alors, j'ai une admiration sans faille pour Serge Gainsbourg, c'est sûr, mais ça devient presque une image d'épinal, je trouve, pour un artiste pop dans l'Hexagone. Mais évidemment, il est.
Tout le monde aime Gainsbourg, non?
Ah, c'est un petit peu compliqué de dire ah non,
c'est la merde.
À la limite, je pense que même si ça te plaît pas, il y a un respect de l'œuvre.
Ouais, bien sûr. Après, moi j'ai quand même l'envie de dire que la fin de sa vie est parfois comme une énorme mascarade. Il a fait des très grandes choses aussi sur la fin de sa vie, mais Gainsbourg, le terme est on peut mieux choisir. C'est-à-dire que, disons que l'éthylisme a remplacé la création, voilà. Parfois, mais il subsiste tout de même des chefs-d'œuvre absolument fous, quoi. Genre, je pense que même si t'es moins touché, je pense en effet que tout le monde peut s'accorder à dire que Melody Nelson est une œuvre fondatrice de la pop.
Magnifique.
Et ça dépasse même la France. C'est une œuvre qui est regardée, admirée aux États-Unis, en Angleterre, enfin partout, je pense, parce que c'est vraiment, vraiment une œuvre majeure, quoi. Mais voilà, donc oui, Aquabonism, c'était un clin d'œil, parce que j'aimais beaucoup ce truc de dire pour. Vous parliez de pessimisme tout à l'heure, c'est pas un pessimisme de gros loser, c'est juste un pessimisme de dire voilà, en partant du postulat que tout a été fait, il y avait du coup la boutade un peu de dire en sortant un premier EP, à quoi bon ces 5 chansons, à quoi bon continuer à faire de la pop dans le sillon de choses existantes depuis les années 60, à quoi bon. Mais finalement, on le fait quand même.
Mais en même temps, effectivement, voilà, tu l'as fait quand même. Donc c'est quand même que t'as.
Oui, parce qu'il y a une question d'envie. Et puis en fait, voilà, si je trouve des paires d'oreilles pour accueillir avec tendresse et sympathie mes lopés, je continue à en faire, c'est sûr.
En tout toujours, cas, il y en avait pas mal de paires d'oreilles ce soir. Il y avait une bonne ambiance dans la salle. Hein.
Et moi, je serais assez intéressée de savoir, parce que du coup, ça fait à peu près 3 ans qu'il est sorti celui-ci. Quel regard t'as sur ton premier EP depuis maintenant ces 3 ans?
On parlait d'un premier album et de l'importance que je confère au fait de faire un premier album, parce que pour moi c'est une étape décisive dans la carrière de quelqu'un, et pour être un peu geek et un peu à l'affût de ce qui peut se faire dans notre petit pays comme ailleurs, voilà, dès que j'ai du temps, j'adore aller manger des catalogues de labels, des nouvelles petites perles, parce que t'es toujours t'es jamais à l'abri de te prendre une grosse gifle, et toutes les fois où ça m'est arrivé, c'est tellement délectable, quoi. Donc j'ai une tendresse assez particulière pour ce premier EP. Je pense que si j'avais à le faire maintenant, c'est un peu le truc de la machine à remonter le temps, j'aurais fait autrement, la production, je pense, m'aurait pas trop changé, parce que je trouvais ça agréable d'avoir un truc très resserré, très pudique,
assez intimiste et
Dans les arrangements, dans la production, et ça, je pense que ça n'aurait pas trop différé, mais peut-être plus dans les structures, dans le fait de diffuser. Il m'a été reproché, et je pense à raison parfois, de laisser un peu trop l'eau à la bouche, de faire des morceaux vraiment genre de 2 minutes 10, 2 minutes 15, alors que certains pourraient être développés un peu plus longuement. Mais j'avais pas envie d'être une sorte de hitmaker, tu vois.
T'es plus à l'aise dans des formats un petit peu plus courts où les choses sont plus concises.
Je suis pas très très fort pour faire des chansons qui frôlent les 10 minutes. Ça,
tu vas à l'essentiel, c'est le principal.
Voilà, mais du coup, je suis peut-être un peu plus dur avec le second. Je suis plus dur en même temps. J'ai énormément d'affection pour cette deuxième sortie. Mais voilà, c'est pas la première, donc des trucs que tu regardes avec une certaine tendresse, t'as un peu plus d'exigence pour la suite. Mais en même temps, je trouve qu'il y a des écritures, justement, on parle de trucs concis. Je pense autant sur Aquabonism, il y a des chansons qui auraient nécessité, qui durent genre 2 minutes 15, tu vois, qui auraient nécessité peut-être en durée 3, voire 4. Alors que la tentative échouée sur Aquavonism de faire un truc hyper concis, réussi sur Naufrage avec pour moi un morceau comme Amelia's Wave, tel qu'il a été enregistré, il dure, là, en fait, il dure 1 minute 58. C'est juste qu'il y a une sorte de réverb à la fin qui
tire un peu le morceau.
Pousse un petit peu, mais à la base, il dure moins de 2 minutes. Et pour moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir tout dit en moins de 2 minutes. Donc là, il y a toujours des avancées.
Les termes justement minimalistes et mélancoliques qui reviennent souvent sur ta musique, est-ce que ça te dérange qu'on te classe dans cette catégorie ?
Alors minimalisme, pas du tout, parce que même en pensant à ce premier album apparaître en septembre, je crois qu'il reste toujours ce truc d'aller à l'essentiel. Et donc non, le terme minimaliste...
Tu préfères qu'on dise on va à l'essentiel plutôt que...
Non, minimaliste, ça va très bien. C'est même moi, en fait, quand on me demandait de mettre une étiquette à la musique, même si c'est le truc le plus difficile, surtout quand c'est toi qui l'as écrit.
Et mélancolique, alors ?
La mélancolique, ouais, c'est évident à plein de moments, mais pas tout le temps. C'était peut-être l'adjectif le plus évident, surtout en termes de public, à calquer sur ma musique. Et je pense qu'il est encore hyper existant. Mais mon souhait était réellement, déjà sur Naufrage, mais encore plus sur Envenry, de mettre plus de relief. C'est-à-dire que c'est toujours là, mais tu t'en évades. Tu adoptes un autre angle. C'est...
Ton public est là encore.
Alors c'est justement, public,
nous,
c'est
on a voulu Félix. Un petit peu... Ah, bonsoir Félix. On a voulu un petit peu s'amuser de ça, cette étiquette un peu mélancolique qu'on colle.
Okay.
Et on t'a préparé un petit test psychologique. Alors, c'est du second degré, hein, t'inquiète pas. Pour savoir quel dépressif étais-tu.
Vous êtes la personne qui bouge bien pendant les jingles.
Alors, tu as 4 propositions. Et à la fin, il y a vraiment une vraie réponse et c'est très sérieux. En vacances, à la mer, tu préfères bronzer sur ta serviette, faire des châteaux de sable, nager jusqu'à la bouée rouge, les chaussettes dépareillées.
Je crois bronzer sur ma serviette, voire même si un parasol est dans les parages, ça me va plutôt.
Tu arrives à un croisement, un piéton traverse, que fais-tu ? Je ralentis pour le laisser passer. J'accélère pour lui faire peur. Je klaxonne ou je nage jusqu'à la bouée rouge.
Je nage jusqu'à la bouée rouge.
La fille dont tu es amoureux emménage à côté de chez toi. Comment réagis-tu ? Tu lui offres une fleur. Tu l'invites à mater Buffy contre les vampires chez toi. Tu lui écris une chanson pour lui dire qu'elle est la plus belle. Ou tu accélères pour lui faire peur.
Je suis tenté
par
accélérer pour lui faire peur, mais non, je crois quand même que le gros bébé romantique que je suis...
Tu lui offres une fleur ?
Non, je vais écrire une chanson.
Oui, c'est vrai.
Quelle est ta couleur préférée ? Le noir, le gris chauve-souris, le gris anthracite ou Buffy contre les vampires ?
Les Buffy contre les vampires.
Ta plus grande qualité, ce serait le romantisme, la gentillesse, la politesse, le gris anthracite.
Le gris anthracite.
Pour mélanger avec l'eau gazeuse, tu préfères du sirop de grenadine, du sirop de citron, du sirop de pêche ou la gentillesse?
Du Jet 27.
On peut t'accorder un joker.
On va accorder un joker parce que bon, c'est pas mauvais.
Si tu étais un instrument de musique, tu serais une guitare, un piano, un triangle ou un sirop de grenadine ?
Un piano.
Alors, un piano. Ah, purée, il est égalité.
Eh oui, il y a un match nul là.
Il y a un match nul. Alors, tu es une majorité de rond ou de croix. Donc, si tu as de rond, tu es Benjamin Biolay. À tes 12 ans, ta petite voisine Sophie te met un râteau. En l'espionnant par la fenêtre de son salon, tu la vois en train de rêvasser devant Serge Gainsbourg. Tu décides alors toi aussi de presser ta vie à te donner un style torturé. Au lycée, tu feras fureur. Tu es même signé sur une maison de disques qui te donne l'opportunité de faire un disque de balade au piano. Mais à force de chanter des chansons tristes, tu finis par plaire aux ménagères de 60 ans et être invité chez Drucker. Incapable de pécho en tout 45 ans, tu finis puceau et seul.
Et donc on est sur les croix, et donc la croix, qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Et tu es sinon Damien Saez.
Oh
putain, mais
quand
quelle horreur.
Quand tu avais 20 ans, tu pensais prendre une guitare et chanter. Tu pensais que prendre une guitare et chanter faux de grands idéaux vagues sur une place à 14h avec un pack de Cronenbourg pouvait changer le monde. Mais la réalité t'a vite rattrapé. Après 4 ans de chômage, ta petite amie te plaque. Tu décides alors de sortir une série de 4 albums pour lui montrer ton amour. Sans effet. Aujourd'hui, tu vis chez tes parents, tu manges au Resto du Cœur, seul à une table.
Tu préfères qui finalement?
Mais aucun des deux, mais je les hais tous les deux quoi.
Il y a de la haine pour les deux?
Non, mais Biolay, malgré beaucoup de ressentiment à l'égard de cette personne, je peux.
Est-ce que tu as vu son dernier clip avec son dernier morceau hyper tranquille?
Il faut parler du dernier Benjamin Biolay.
Ça m'a brûlé les yeux, c'était la scène finale de The Lobster.
C'est incroyablement triste.
Oui, pourquoi faire ça quand il sait faire. Non mais on ne m'enlèvera jamais de la tête que Trash Yéyé et certains titres de La Superbe sont vraiment...
La Superbe, ça reste un peu le summum.
Ouais, mais alors, contrairement à Delerme que j'ai vu sur scène il y a quelques mois, Biolay, je l'ai vu sur scène et j'étais navré. En fait, c'était même pas trop navré par lui, parce qu'il faisait pas trop mal le taf, mais bon, c'était pas fou non plus. Et c'était surtout son public, j'avais envie de les gifler, quoi. C'est vraiment un lectorat de, je sais pas, VSD et Paris Match, c'est infâme. Ben, c'est vraiment le ménageur de 40 ans qui prend des bouffées de chaleur à la Cité des Congrès, quoi. Non, c'est pas possible.
Le public de Damien Saez, il y sent pas VSD.
C'est pareil. Écoute-nous tout de suite,
j'ai même pas envie de parler de Damien Saez, vraiment.
On propose à nos éditeurs surtout de ne pas se brûler les oreilles, vu qu'on va s'écouter un petit morceau du live de Len Parrot ce soir au pop-up du label.
And son, I've been waiting for you so long to know that your arms are a place I could call home. I try not to let your face remain vacant. No one around to ground me a single dance. In my younger days, where were you? In my younger days, where were you? And Sam, it was just a little early. You tried a bit, but you were just not ready. In my younger days, I may have been alone, searching for your hand, waving hello song.
Merci.
Two words has a brand new meaning. The first one was pretty boring for real. I can hardly face my sorrow, as you can hardly admit that you need some help. Sometimes I wish you were not here. Sometimes I wish that you were dead. How can you let things rot us if you have lost your nose? Not half bad. Joe, wake up, we're going nowhere slow. Just go home, I'm off the road. It's only my opinion, but I think we did it all wrong. I'm off the road. There's another lie to swallow, a whole garden where the children play. Boy, you were too fast to follow a young raven on a sunny day. Sometimes I wished you were not here. Sometimes I wished that you were dead. How can you let things rot as if you have lost your nose? Not half bad. Joe, wake up, we're going nowhere slow. Just go home, I'm off the road. It's only my opinion, but I think we did it all wrong. I'm off the road. I'm off the road. I'm off the road. I'm off the road.
De retour pour la dernière partie de La Nuit est une fête consacrée à Len Parrott. On l'a dit et on le répète, ce soir c'est donc une soirée en honneur de la sortie de premier morceau Mandeland de ton premier album End and E. Et justement, ce premier album, je voudrais qu'on en parle un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as composé ?
Oui. La petite poche, Juliette. La petite poche. Voilà, ce seront ça les seuls mots. Non, alors, Envenhi, je l'ai écrit avant même d'avoir commencé. D'avoir sorti quoi que ce soit, parce que je me trouvais très lent à composer, donc je me suis dit, mais d'ores et déjà des morceaux de côté, parce que si les choses se passent bien, c'est-à-dire qu'elles se sont bien passées, et j'en suis très 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 heureux, j'avais pas envie de me retrouver à la sortie de Naufrage,
sans rien en rab,
ouais, à n'avoir rien de côté, à me dire, merde,
je pars de zéro, je dois
voilà, trouver. Parce que je sais quel est le rythme. Pour les gens de consommer en fait la musique,
ouais.
Consommer et consommer.
Moi je me rends pas compte. Un an c'est long en fait pour composer.
Bah alors peut-être que pour eux non. Peut-être qu'en fait puis on a eu la chance. J'ai la chance d'avoir Lola qui est ma productrice de tournée qui est une fille géniale et qui nous a mis sur la route toute l'année dernière et donc. Même au 15 décembre 2016, j'avais encore des dates, et ça c'était quand même génial. Donc la pause, somme toute, a été assez courte. Mais oui, en tout cas, oui, je pense que aux yeux des médias.
Il faut aller assez vite. Et d'ailleurs, j'ai un truc, il faut aller même de plus en plus vite.
On
avant,
a peur sinon d'être oublié, en fait, on est très vite remplacé.
Avant, un groupe, il sortait un album, il pouvait attendre 2-3 ans avant de repartir. Maintenant, il faut aller vraiment de plus en plus vite.
Bah, en tout cas, je pense que dans mon terreau, qui est quand même assez indé. On peut avoir un rythme un peu plus lent et la pression était moindre. Mais quand même, je sais que il y avait des petits signes avant-coureurs, pas d'une lassitude, mais un truc où, Naufrage est sorti en février 2016. Je sors un nouveau titre en mai 2017. C'est un assez grand temps, quoi. C'est un peu plus d'un an. Mais de par ce rythme en fait qui nous est imposé aussi et puis par aussi la, c'est même pas un rythme, c'est la vitesse de sortie, c'est la vitesse qu'offre internet, c'est la vitesse qu'ont les gens de manger de la musique maintenant. Plus d'un an, c'est vraiment costaud. Et donc je pense que c'est à cause de ça parfois, alors que voilà, d'avoir l'album de près un an et demi après, c'est pas perdre de temps.
Pas mal,
tu vois.
Ouais, bien sûr.
Mais ouais, ça m'a semblé long. Ça m'a semblé long parce que je suis un impatient chronique et parce que ouais, il me tardait de remonter sur scène parce que j'ai eu.
T'es un artiste de live, t'aimes bien être sur scène.
Ouais, je crois que c'est vraiment là où le sentiment d'être à la place. J'ai pris un plaisir fou à être en studio aussi longtemps, tu vois, à avoir une élaboration sur 7-8 mois. qu'on a commencé les pré-productions du disque en septembre 2016. Et là, le mix, Pierre Yuxek termine le mix ces jours-ci.
J'avais une question là-dessus. Ouais. Donc c'est Yuxek qui a remixé tout ton dernier album, ton premier album.
Qui a mixé, il n'y
a pas remixé. Qui a mixé.
Il fallait déjà mixer avant qu'on se soit.
Avant
l'enfer de l'Eurodance. Pour au moins
ça, c'est assez régime. Étonnant comme choix. Enfin, moi, j'ai été assez surprise.
Et moi aussi, figure-toi. Et il s'est avéré que j'avais une personne en tête qui est un gars génial. Un peu en droite lignée de ce que Julien Gasque avait en tête sur la production du disque. Et je me suis rendu avec lui en studio. Et vraiment, bah, comme parfois ça arrive, c'est pas lui qu'il a fait du sale boulot ou quoi. Au contraire, mais il avait sa vision, j'avais la mienne. Et je pense que il y a eu une succession de quiproquos et de mésententes qui ont fait que ni lui ni moi n'avons démordu de nos positions et donc voilà, passé une quatrième, cinquième tentative, je dis bon foot.
Arrête quoi, on fait.
Ouais, voilà, je pense que là on n'arrivera pas à trouver un terrain d'entente, tu vois, c'est pas avec une V12, c'est avec une douzième tentative que
si ça marche pas 11 fois
voilà c'est ça, puis je pense qu'au bout d'un moment il y a du coup pas de l'inimitié mais une impatience de l'un comme de l'autre de pas arriver à prendre le pas sur la décision souhaitée donc voilà, donc j'étais du coup alors qu'il était pour moi la personne idéale, j'étais du coup un peu désarçonné à trouver d'autres personnes à qui confier mon bébé. Et donc il y a JS, mon ami qui est le chanteur de Juvenise, qui est donc un très proche, qui chante, qui était un de mes amis, un proche collaborateur sur le disque, qui donc connaît très bien Pierre, puisque c'est Yuxek qui a mixé leur premier album, qui figure aussi sur leur second. Les deux m'ont fait la surprise de venir au Petit Bain un soir où j'étais invité par Kim, qui est également un très proche collaborateur de Yuxek, et Cléa Vincent. Et donc, c'est au sortir de cette date que j'ai passé la soirée avec eux. Et Pierre m'a fait part, m'a demandé un petit peu où j'en étais, puisque j'ai eu la grave surprise de savoir qu'il connaissait un petit peu ce que j'avais sorti jusqu'ici. Et donc, je lui ai dit, je suis un peu embêté parce que j'ai plus personne. Pour mixer mon disque, il m'a dit.
C'est lui qui s'est proposé.
Mais ouais.
C'est incroyable.
Donc voilà, j'étais vraiment assez hébété par la proposition. Puis je l'ai chopé au vol. Et il s'avère que voilà, après, du coup, entre temps, d'autres tentatives de mix, quand Pierre m'a envoyé son premier mix de Monde d'Hélène, c'était.
Écoute, nous on a entendu que ce morceau-là, mais en tout cas, moi j'ai été agréablement surprise. Il est extrêmement bien produit et on a hâte d'écouter l'album en tout cas.
Et clairement. Oui, complètement.
Et donc justement, merci. On s'est interrogé sur ce que tu pouvais bien écouter dans la vie. On t'a shippé, enfin Erwan t'a shippé ton portable.
Shippé avec complicité, hein, ouais. Ne mentons
qu'est-ce
pas.
Qu'est-ce que t'as pu en tirer, Erwan? Oui, c'est vrai. Bon.
Et j'ai plongé dans ton téléphone portable. Parce que c'est bien connu, ce qu'on a dans son téléphone, c'est ce qu'on écoute tous les jours, c'est ce qu'on écoute dans les transports en commun, quand on marche dans la rue, quand on va acheter le pain, ça dit beaucoup de choses. Et déjà, il y avait vachement de trucs que je connaissais pas, hein. On va pas se mentir, hein.
C'est plutôt positif.
On vient d'univers relativement différent, on peut le dire. Il y a deux choses qui m'ont vachement intéressé. C'est que t'as quand même des petits goûts rap quand même. Sur ton téléphone, j'ai trouvé le dernier Kendrick Lamar et un album de Drake.
Ouais. Un single de Drake, c'est back to back.
Un single de Drake.
C'est quand il avait son beef avec Meek Mill où il s'amusait à s'envoyer des tracks où tu te dis, mais tu sais, quand on chie pour sortir les trucs, les balancer sur les plateformes Deezer et tout, et les mecs sont à un niveau de reconnaissance tel que dans la nuit, ils se font un petit freestyle avec leur sauce, ils envoient ça à leur producteur et bim,
et
leur
bim,
main
c'est
en ligne. Alors, ok les gars, alors là, il va falloir que vous me fassiez un petit topo sur vos distributeurs parce que là. On est largués comme des grosses merdes, hein, il faut le dire.
Tu peux le dire.
Qu'est-ce qui t'a chez lui, c'est chez quelqu'un comme Kendrick Lamar par exemple, son dernier disque.
Son dernier disque, parce que je retrouve un petit peu de la classe et de la spontanéité qu'il y avait sur Untitled Unmastered, donc qui est une sorte de compilation de chute de studio issue de To Pimp a Butterfly que je n'ai toujours pas compris pour le coup. Celui-ci. Tout le monde a crié au génie, au chef-d'œuvre. Et mis à part The Black of the Berry, l'album m'emmerde un peu. Mais je pense que c'est un truc genre une sorte de proposition un peu new soul ouais. qui est un peu trop ampoulé parfois pour moi. Je trouve qu'il revient vraiment à un truc hyper sincère, hyper inspiré, hyper spontané surtout sur les chutes de Untitled Master. Où en fait je me suis pris une énorme gifle et là sur Dan il se révèle au fil des écoutes. Au début j'étais là ok,
Dan il est assez difficile à appréhender
mais en fait je crois vraiment qu'il est très très réussi et qu'il passera bien le temps. Et des titres comme Ya ou Humble, c'est quand même la grosse classe. Tu vois qu'il est un peu
il est au-dessus du game.
Ouais clairement.
J'ai trouvé également deux autres artistes qui m'ont intéressé dans ton téléphone. Juliette Armanet.
Ah déjà, moi j'adore.
Qui est un petit peu on a pu te voir dans le live dans une configuration où t'es sur un piano acoustique et Juliette Armanet évolue aussi beaucoup comme ça, piano voix en live. Oui. C'est quelqu'un que t'apprécies aussi
Ouais, et puis c'est devenu un peu une copine aussi. C'est par mon pote Pierre Seyssette que je l'ai rencontré parce qu'ils sont amis de longue date.
Et ils ont fait un duo ensemble.
Ouais. Et donc voilà, et puis donc on s'est rencontrés par Pierre. Et puis voilà, le fait de connaître et d'être vraiment proche de Cléa. Et Flora, Fishback en et partie, font que...
C'est vrai qu'elle est un peu assez représentative, enfin, tout ce petit groupe.
Ouais, elles ont des singularités et des personnalités, vraiment des identités très, très propres à chacune d'entre elles. Et il n'y a pas trop de plagiat, j'ai l'impression. Je le vois.
En tout cas, elle porte quelque chose dans la chanson française maintenant.
Exactement, hein, c'est un peu la relève 2016, de la chanson.
Je pense que oui, à toute leur entité, en fait... Elles sont vraiment dans quelque chose, dans une vague assez réjouissante.
Ouais.
Et donc oui, j'ai l'album de Juliette parce que j'ai pris un peu du retard à l'écouter. Et il y a un titre que je ne connaissais pas et qui est absolument fou.
Dedans,
qui s'appelle À la folie.
Il est magnifique, mais l'album est magnifique.
Génial.
Incroyable.
Ouais, bah, en tout cas, ce titre-là me retourne.
Et le dernier artiste que j'ai pu trouver dans ton téléphone, on va l'évoquer très rapidement, c'est Mac DeMarco.
Ouais.
Mac DeMarco, t'as l'album This Old Dog, qui est un peu le meilleur de Mac DeMarco, on peut le dire.
Je pense pas ça du tout.
Pas du tout. Ah, je sais pas, moi c'est un disque qui m'a vachement plu.
Non, mais je pense pas ça. Mais
alors pourquoi lui et pas un autre sur ton téléphone?
Bah parce que quand même, je suis tombé fou amoureux quand il a sorti Rock'n'Roll Nightclub. C'est vraiment sans prétention aucune, mais j'avais cette EP là genre quelques semaines après qu'il soit sorti et j'ai aimé et j'ai fait l'aller-retour
en fait,
pour Paris.
C'est par lui que t'es rentré un peu dans l'univers.
Je trouve qu'une proposition comme Homeshake maintenant bute 15 fois plus que ce que fait Mac DeMarco. Mais c'est pas lui parce que. Non mais This Old Dog se défend complètement, il est même plutôt réussi, vraiment. Mais je sais pas, je suis plus sensible au truc des débuts. Je pense que jamais il n'arrivera à égaler son album qui s'appelle 2 et Two. Et puis je pense que ses chefs-d'œuvre figurent sur Sad Days, qui pour moi est hyper inégal, mais figure Chamber of Reflection et puis Passing Out Pieces, qui pour moi, j'ai jamais vu rien d'aussi beau dans sa discographie depuis. Et je pense que Capture Tracks, c'est peut-être pas que Capture Tracks, mais disons que l'engouement mondial autour de Mac DeMarco qui est devenu une superstar, alors qu'il vient vraiment d'une sorte de truc hyper underground, hyper indé, mais qui est vraiment devenu une énorme superstar, font que ça va l'éreinter et qu'il a un rythme et une frénésie telle que... Mais en même temps, lui se défend de ça. C'est-à-dire que lui souhaite enregistrer le plus d'albums et sortir un album par an. Et je pense qu'en tournant tout le temps comme ça, l'inspiration est plus difficile à comprendre. Et puis en plus, voilà, il y a quand même... Il a ramené les delays et les chorus et une esthétique hyper marquée avec des relents un peu 80s dans sa pop. Et que du coup, il est légataire d'un son. Et donc, c'est plus compliqué en ayant vraiment une patine hyper identifiable de faire quelque chose qui puisse transcender de temps en temps. Et par exemple, le dernier, du coup, juste je vais vite parce que vous me parlez, vous me lancez sur ça.
C'est le but. Parlons-en.
Mais Another One, pour moi, c'est foiré, quoi. J'ai pas
du tout accroché au dernier.
Fallait pas le sortir. Another One, c'est
C'est pas que c'est foiré, je trouve. C'est juste que.
C'est hyper en dessous.
Il est peut-être trop vite. Il a voulu sortir un truc trop vite et on sent que c'est.
Bah non,
pas
c'est sûr qu'il est enfermé dans des patterns qui sont très.
Le Vistal Dog est beau, il y a des super trucs de boîte à rythme. Il y a des bons trucs, vraiment. Non, il est loin d'être foiré, vraiment. Enfin, ce n'est que mon en la vie. Hein.
Merci Erwan, merci Antarot.
Vous allez tout découvrir comme si vous étiez dans les coulisses de préparation de concerts, de préparation d'émissions. Tout se fera avec des vrais micros, des vraies voix, des vrais musiciens. Il y a des câbles partout.
La nuit est une fête
sur Radio Campus Paris.
Il y a des pédales wah-wah.
Et le dernier mot, il va être pour notre grand conique. Grand chroniqueur Maxime qui va faire je ne sais trop
t'es
quoi.
T'es pas passé loin d'être chroniqueur, hein,
c'est presque incroyable le jeu de mots. Je ne sais pas ce que tu as prévu, Maxime, mais je sais que ça va être formidable déjà.
Merci, Jordi. Romain, bonsoir.
Bonsoir.
Romain, nous allons passer quelques minutes ensemble autour de quelques interviews thématisées, à commencer par l'interview Jardin Secret. Romain, quel est le prénom de votre mère ?
J'ai déjà peur de cette interview.
Et moi donc. Isabelle.
Quel est le prénom de sa mère ?
Monique.
Pourquoi ?
Parce qu'il fallait bien les appeler, ces enfants.
Parfait, merci. Passons maintenant à l'interview enfance. Vous regardiez quoi à la télé quand vous étiez enfant ?
Mais j'ai dit tout à l'heure, c'était quoi ? Premier baiser, donc, pour ne pas faire de faux plis.
Interview people, maintenant.
Mais c'est un... c'est énorme.
Vous préféreriez dîner avec Jessica Fletcher, Stéphane Derrick ou le commissaire Cordier ?
Mais je crois que je vois aucun des trois.
Eh ben oui.
Oh, Jessica Fletcher, arabesque, Stéphane Derrick, le commissaire Cordier.
Mais vous avez
Cordier
150 ans, Maxime, comment ça se passe ?
Laissez-le répondre.
Oh, peut-être Derrick quand même, il y a moyen de se marrer, je pense.
Vous faites Paris-Béziers pardon, en voiture. Qui choisissez-vous en covoitureur ? 1. Éric Zemmour, qui a mal dormi. Cyril Hanouna, qui a absolument pas sommeil. Ou Laurent Gérard, qui répète ses chroniques.
Je pense que je l'ai trois et je me vaute dans le fossé et je suis le seul à avoir un airbag.
Pas mal, très bonne réponse.
Vous préféreriez organiser un goûter d'anniversaire avec Francis Holm, Michel Fourniret ou Nicolas Dupont-Aignan ?
Ah vache !
Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a même pas envie de le faire avec Nicolas
Dupont-Aignan. Non. Ah bah non, attends, mais c'est quoi ce type, quoi ?
Vous co-organisez, bien sûr.
c'est ça. Bah, je sais pas, peut-être les trois et puis je garde la clé, quoi.
Mm-hmm. Portrait chinois à présent, Romain. Portrait chinois, c'est-à-dire si je dis si vous étiez un fruit, vous seriez quoi ? Vous me répondez le. Mais
d'accord, c'est pas du tout un truc raciste envers tout le peuple asiatique.
Ah non, pas du tout. Okay, non, cool. Absolument pas. Ça c'est okay. Après. Si vous étiez un acteur, qui seriez-vous ?
Si j'étais un acteur. Ah, j'aime bien. Pascal Grégory. J'adore ce mec. Je le trouve incroyable dans tous les films de Chéreau. J'adore ce type. Pascal Grégory. Voilà. Et non pas le petit Grégory. Hein, c'est encore autre chose.
C'est un autre
parce
délire.
Que du coup, si c'est un acteur, bah, il joue plus beaucoup.
Le même Pascal Grégory qui a joué dans La Soif de l'heure.
Bah, qui a joué dans Ceux qui m'aiment prendront le train, je pense surtout.
Si vous étiez un film français.
La fille du 14 juillet.
Si vous... J'adore ce film. Très très bon choix.
Si vous étiez une automobile.
Une Kangoo.
Oh non. Non, je sais pas. Un joli cabriolet, quoi. Un truc un peu vieux qui est forcément pas du tout écolo, mais tu dis, ah, c'est hyper beau quand même. Voilà.
Si vous étiez une réplique de film pornographique.
Je n'arrive pas à me retirer.
Si vous étiez un attentat.
Sympa.
Si j'étais un attentat. Je serai un attentat déjoué contre ton cœur, bébé.
Si vous étiez un tableau de Raymond Pouillard, mon oncle, il peint des fois.
Celui où c'est dit, attends, je vais reprendre du flanc et je le finis après.
Interview, très beau tableau. Interview au cinéma. Oui. Parmi ces films, un n'existe pas. Trois propositions, vous devez trouver lequel. Okay. Est-ce que c'est Arrête de ramer, t'attaques la falaise ? Est-ce que c'est Dieu, l'amant de ma mère et le fils du charcutier ? Ou est-ce que c'est les râpes à fromage étaient sous la pelouse ?
Le deuxième, là, il est bien, là, ouais. Va falloir appeler le CNC, là.
Alors non, c'est le troisième qui n'existait pas. Les deux premiers existent. Interview mal à l'aise. Je vais vous proposer...
C'est déjà le cas, hein, sache-le quand même. qu'on soit bien clair.
On va plus en profondeur. Interview mal à l'aise,
C'est la citation porno pour le coup.
Je vais vous poser quatre questions, vous allez choisir laquelle vous allez répondre. Première question. Avec quel membre de votre famille souhaiteriez-vous avoir une relation incestueuse? Deuxième question.
Il va beaucoup trop loin pour moi.
Vous pensez à quoi quand vous vous touchez? Troisième question.
Heureusement
j'arrive
c'est la
pas
fin
à me relire. Non, c'est... Ah oui, c'est ça. Le prénom de votre dernière relation adultère. Et enfin, dernière question. Quel programme de télé inavouable regardez-vous? Vous choisissez quelle question?
C'est assez simple.
Cul comme kiosque.
Et on ne saura pas à quelle
question
il
a répondu.
Ok, ça, interview citation
le
à
texte
présent.
Le texte est étrange comme prénom. Hein.
Qui a dit Damien Saez, c'est pour la ménagère de 40 ans qui veulent se faire des bouffées de chaleur à la maison des congrès.
Ça, c'est Erwan.
Non, je le saurais,
c'était
moi.
Non, c'est moi, mais j'ai pas dit la maison des congrès, j'ai dit la cité des congrès.
Ah, pardon, la cité des congrès. Et oui, effectivement, c'est
vous. Quote correctement, merde.
Oui, effectivement, c'est vous.
On va finir par une interview mitraillette. C'est-à-dire que je vous pose des questions à deux choix et vous devez répondre très vite sans réfléchir. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Vous préférez thé ou café?
Café.
Foot ou rugby?
Aucun des deux.
Mer ou montagne?
Ma mère.
Votre père ou votre mère?
il passe.
Fillon ou Macron?
Il passe.
Staline ou Mussolini?
Il se mouille pas trop. Hein.
Mussolini parce que ça fait un peu mousse.
Ok, très bien. Eh bien, écoutez,
il a fait du mal aux gens quand même. Hein. Ne l'oublions pas.
Écoutez, j'en ai fini. Merci beaucoup.
Eh ben, merci, Maxime. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et c'est déjà l'heure de nous quitter.
Non.
C'était beaucoup trop court.
C'est passé très très vite.
Ouais, effectivement. Quelqu'un autour de la table a-t-il quelque chose à dire?
J'ai très envie de pisser, c'est un petit quart d'heure.
La même chose, mais là c'est l'heure du coup, l'heure de stopper l'émission directement. Merci beaucoup Romain d'avoir
merci
été avec nous.
Merci.
On te remercie. Merci au pop-up du label de nous avoir reçus. Et on vous embrasse et on vous dit à très bientôt, au mois prochain. Voilà, exactement.
Allez, au mois prochain, comme la dernière fois.
Un dernier mot, Romain, peut-être, avant de nous quitter.
Bisous.
Bisous. Très bien.
Ce sera
à tous.
Le thème de cette émission.